OK, on va commencer notre 31e leçon. On est dans la réforme en Suisse allemande, donc on change de pays. On était en Allemagne la semaine dernière avec les Moraves. Et on va regarder un personnage qui était important dans la réforme en Suisse, donc Ulrich Zwingli, qui a vécu entre 1484 et 1531. Donc, dans nos leçons précédentes, on avait vu comment le Seigneur avait préparé Martin Luther pour l'œuvre de la Réforme, son comportement exemplaire à bien des égards durant ses difficultés avec les dirigeants de l'Église catholique et aussi les succès apportés par ses efforts. On avait également pu constater que la situation n'avait pas tardé à se détériorer en Allemagne après sa mort. La Réforme s'était trop politisée et le tout avait eu pour résultat de graves désordres religieux et sociaux. Le Seigneur s'était servi du groupe des piétistes et aussi des Moraves pour ramener de l'ordre dans le pays et dans la Réforme elle-même. On va regarder aujourd'hui l'action du Seigneur dans un autre pays, la Suisse allemande, et on va voir comment Dieu a utilisé un autre serviteur pour étendre son royaume dans ce pays, donc Ulrich Zwingli. Alors, la réforme en Suisse allemande. Au point de vue territorial et politique, la Suisse présentait au commencement du 16e siècle un aspect très différent d'aujourd'hui. Le nombre des cantons, de 8 jusqu'en 1481, monta progressivement à 13 en 1513 et ne changea plus jusqu'en 1798. Dans certains d'entre eux, surtout Zurich, Berne, Bâle, Lucerne, l'élément urbain l'emportait du fait de l'importance qui occupait la ville principale. Ailleurs, les campagnards avaient la primauté et manifestaient une vive répugnance aux innovations, quelles qu'elles fussent, tandis qu'en ville, on se montrait plus accessible aux idées nouvelles. Il y avait donc mésentente profonde dans l'administration des affaires qui intéressait l'ensemble de la Confédération, et c'est par là que s'explique en partie la division si tranchée de la Suisse en deux camps lors de la Réforme. En outre, quelques cantons détenaient de vastes territoires en toute propriété. C'était des pays sujets. Berne, par exemple, avait acquis de longue date l'Argovie et fit en deux étapes la conquête du pays de Vaud, qu'elle en vint à posséder presque entier. Le Tessin était un bailliage commun à tous les cantons. On pourrait allonger beaucoup cette énumération. Quand vint la Réformation, selon l'usage du temps, qui a été signalé ailleurs, le maître imposa sa religion à ceux qui dépendaient de lui. La pratique de deux cultes, si totalement divergents sur un si petit territoire, ne manqua pas de déchaîner des conflits à main armée. On peut même s'étonner de ce que le pays ne soit pas scindé en deux États rivaux. La Suisse offre cette triste originalité d'avoir été le théâtre de la première guerre de religion en Europe, celle de Kappel en 1529, et aussi de la dernière, la deuxième guerre de Wittenberg de 1712, sans parler de celle de Sonderbund en 1847, provoquée également par des motifs confessionnels, mais qui débordaient sur le terrain politique. Ce n'est qu'à partir du milieu du 19e siècle que la paix religieuse a vraiment régné dans ce pays. Au 16e siècle, les ténèbres spirituelles étaient peut-être plus profondes encore en Suisse qu'ailleurs. La vie matérielle y tenait une place essentielle. L'agriculture à la campagne, le commerce, l'industrie, la pâte du gain, le service militaire dans les villes. Même dans celles-ci, on ne distingue que de faibles lueurs témoignant d'un intérêt pour les choses de l'esprit, et surtout pour celle de Dieu. D'une manière générale, on traitait avec mépris ceux qui s'attachaient à l'étude de l'Écriture sainte. Les prêtres disaient tout haut qu'elle n'offrait pas la moindre utilité. L'un d'eux, allait jusqu'à prétendre qu'on aurait pu vivre en paix et très heureux quand même il n'y aurait pas eu d'évangile dans ce monde. Le culte n'était plus qu'un amas de pratiques grossières, pire encore qu'ailleurs. D'après les témoignages des contemporains, à Zurich, à Bâle, à Berne, à Lausanne, à Genève, dans les villes comme dans les villages, le bigotisme était si général que la religion, si on peut appeler de ce nom des pratiques pareilles, consistait chez la plupart des gens du peuple à regarder le mouvement des doigts du prêtre, à les entendre marmotter des mots inintelligibles, à se prosterner devant des images, à baiser des reliques. Le trafic des indulgences se pratiquait aussi. Mais comme en Allemagne, quoique de façon tout à fait indépendante, un travail de Dieu se faisait dans les cœurs. Les esprits un peu éclairés étaient là des vexations d'un clergé enrichi des offrandes de la superstition. Le Seigneur formait des ouvriers pour démolir l'échafaudage des erreurs accumulées par le travail de Satan. Donc, on va regarder un petit peu l'histoire de Ulrich Zwingli. Donc, le plus remarquable des réformateurs de la Suisse allemande, Ulrich Zwingli naquit le 1er janvier 1484, trois mois après que Luther, à Wildhaus, le dernier village de la longue et belle vallée de Toggenburg, qui fait partie aujourd'hui du canton de Saint-Gall. De tout temps, sa population, vaillante et joyeuse, manifesta un grand amour de l'indépendance. Les parents d'Ulrich, gens très honorables et connus par leur piété, charmés des belles dispositions de leur fils, conçurent de bonne heure le projet de lui faire embrasser la carrière ecclésiastique. Il fit de brillantes études à Bâle, à Berne, plus tard à Vienne. Partout, il se distingua dans les exercices de discussion publique, si fort à la mode alors. Elles le préparèrent aux joutes oratoires qu'il dut soutenir plus tard en faveur de la cause de l'Évangile. À l'âge de 22 ans, Zwingli revint à Bâle, cette fois en qualité de maître de latin à l'école Saint-Martin. Il continuait ses études à l'université, où il suivait assidûment les leçons de Thomas Wittenbach. Celui-ci annonçait à ses disciples l'aurore de temps nouveau, dans lequel la grâce divine agirait avec puissance, où l'enseignement religieux se baserait uniquement sur la Bible et en particulier sur les écrits des apôtres. Il l'élevait aussi contre le célibat des prêtres, qu'il envisageait comme une institution funeste, antiscripturaire, contre nature. Il traitait de charlatanisme les indulgences, déclarait que le sang versé par Jésus sur la croix est la seule et unique rançon pour les péchés. C'est bien à Thomas Wittenbach que Zwingli dut la connaissance première de la vérité. La même année, il reçut un appel à Glaris comme curé. Les habitants de cette ville auraient dû accepter en cette qualité un Italien qui n'avait d'autre recommandation que celle d'avoir servi comme palefrenier du pape. Indignés à juste titre, ils donnèrent leur préférence à leur compatriote, malgré sa jeunesse et à cause du témoignage excellent que lui rendirent ses maîtres. Il se dévoua aussitôt entièrement son ministère, mais continuant en même temps, pour lui-même et sans secours aucun, ses études classiques. Il lisait les auteurs latins dans le texte, les apprenait par cœur. Il leur doit le goût qui distingue ses écrits. Pour lire le Nouveau Testament dans l'original, il apprit tout seul le grec, copia de sa propre main les épîtres de Paul et les grava mot à mot dans sa mémoire. Il mettait une ardeur extraordinaire à découvrir la vérité qui, disait-il, est pour moi ce que le soleil est pour l'univers. De même que nous le saluons partout où nous le voyons apparaître, de même qu'il nous encourage à l'ouvrage, de même l'esprit se tourne vers la lumière et il se réjouit lorsque ses rayons vienne à dissiper les ténèbres de l'ignorance. La lumière est pour le monde le plus grand sujet de joie. La vérité est pour l'esprit l'objet le plus cher, le plus précieux et le plus souhaitable. Il écrivait aussi à un de ses amis, « Je veux puiser la doctrine du Christ à la vraie source, sans recourir à aucun intermédiaire. C'est pour cela que je dois connaître la langue même dans laquelle les auteurs inspirés ont écrit. La philosophie et la théologie n'ont fait qu'accumuler les difficultés dans mon esprit. Aussi, j'en ai conclu que je devais abandonner ces disciplines et chercher à pénétrer les pensées mêmes de Dieu par l'étude de sa parole. Je m'y appliquai en suppliant instamment le Seigneur de me donner sa lumière. Je ne lus plus rien que les Saintes Écritures. Et à mesure que j'avançais dans ma lecture, le sens de la révélation divine devenait infiniment plus clair à mes yeux. Et si j'avais recouru à je ne sais combien de commentaires. C'est ainsi que Zwingli se familiarisa avec la Bible et surtout avec le Nouveau Testament. On s'en rendit bien compte lorsqu'on l'entendit prêcher. Ce qu'il disait prouvait ce qu'il savait. Il l'avait appris du Seigneur lui-même et non de l'homme. Le grand humanisme Érasme, malgré le scepticisme qu'il affichait, attirait aussi beaucoup Zwingli. Voici ce que raconte Zwingli au sujet de ce qu'il devait au savant hollandais. « Il y a 8 ou 9 ans, l'écrivait en 1523, que j'ai été amené à la conviction qu'il n'y a qu'un médiateur entre Dieu et nous, à savoir le Seigneur Jésus-Christ. J'avais lu une touchante poésie latine du savant Érasme de Rotterdam, dans laquelle il exprime cette pensée que le Seigneur Jésus est la source unique de tout bien et que nous sommes très fautifs de ne pas y puiser constamment. Lui seul est notre sauveur, la consolation, la richesse, le trésor de nos âmes. Et je me dis, puisqu'il en est bien ainsi, pourquoi chercher mon secours auprès des hommes? Que peuvent-ils me donner? Malgré d'autres cantiques dus à la plume du même Érasme, je n'ai pu détacher mon cœur de celui-là. Je me mis alors à examiner soigneusement la Sainte Écriture et les Pères de l'Église pour y trouver un enseignement sur l'intercession des saints. Mes recherches restèrent vaines, je n'ai découvert rien, absolument rien, sur ce sujet. C'est ainsi que Dieu se sert des moyens les plus inattendus pour attirer à lui les cœurs désirés de le trouver. À cette époque, dans la plupart des cantons, les citoyens suisses concouraient tous sans exception à la gestion des affaires publiques en se réunissant en assemblée dite Landsgemeinde. De même, ils devaient tous prendre les armes au premier appel des magistrats. Ceci explique pourquoi on rencontre Zwingli beaucoup plus souvent que Luther sur l'arène politique. Deux fois aussi, il dut prendre part comme aumônier aux expéditions que les Suisses faisaient alors en Italie pour soutenir contre la France la cause du pape et celle du duc de Milan. Il assista à la terrible défaite que subirent ses compatriotes à Marignan sous les coups de l'armée dirigée par François Ier. Mais ces deux campagnes lui ouvrirent les yeux sur l'affreuse déchéance morale et spirituelle dans laquelle était tombé le clergé italien, puis également sur le danger que couraient les Suisses eux-mêmes à ce contact impur. On tuait, on pillait, sans retenue aucune, comme par plaisir. Tous les nobles instincts de la nature s'atrophiaient rapidement. L'amour du gain, même illicite, l'esprit de violence, le mépris d'autrui, la dégradation morale, la grossièreté sous toutes ses formes, tels étaient les vices que développait le service étranger. Rentré à Glaris, Zwingli prêcha avec une conviction éloquente contre cette pratique, irritant ainsi les autorités qui craignaient de voir disparaître par là un revenu important et assuré. Mais personne n'osa arrêter le vaillant prédicateur que toute la population chérissait parce qu'il ne manquait pas une occasion d'annoncer avec droiture tout ce qu'il trouvait dans l'Écriture. Quelle que fût la question qu'il traita, il se basait sur la Bible. Son procédé favori consistait à expliquer la parole de Dieu pour elle-même en rapprochant les passages qui se rapportaient au même sujet. Son éloquence respirait la force et l'animation. Tout vibrait chez lui et il tenait admirablement ses auditeurs en haleine. Si, disait-il, on voit clairement ce qui est vrai, à cause de cela même, on discernera ce qui est faux. Sur un point pourtant, Zwingli souffrait cruellement. Profondément pénétré du sentiment de sa misère morale, de sa faiblesse, il soupirait après la véritable sainteté, croyant comme tant d'autres y parvenir par ses propres efforts. Il passa par des luttes intérieures amères jusqu'à ce qu'il apprît à s'en remettre entièrement au Seigneur, pour cela comme pour tout ce qui le concernait. Il écrivit plus tard « Je n'avais personne qui m'aida à m'élever vers le bien. Beaucoup, au contraire, me raillaient. Je suis tombé et retourné comme le chien à ce que j'avais vomi, comme on peut le voir dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 22. Je suis descendu avec une profonde douleur, avec honte dans les abîmes de mon âme. Et alors j'ai tout montré à celui auquel seul j'aime à me confesser, car que pourraient les hommes dans un cas comme celui-là? Faut-il ajouter que j'ai trouvé la réponse et une réponse parfaite? Il est à craindre toutefois que Zwingli ne se serait pas laissé entraîner petit à petit par le courant politique. Il y avait à Glaris un parti important qui en voulait aux réformateurs de sa franchise. On suscita même une cabale contre lui. Fougueux comme il l'était, Zwingli aurait subi la tentation de répondre aux basses calomnies dont on l'abreuvait. Mais le Seigneur veillait sur son serviteur et lui ménagea un asile de repos et de recueillement fort inattendu dans le couvent d'Einzeldelm, de même qu'il avait jadis dit à ses disciples, « Venez à l'écart et reposez-vous un peu », comme on le voit dans Marc, chapitre 6, verset 31. Il y fut même appelé par l'abbé lui-même. Les habitants de Glaris, appréciant de plus en plus ses éminentes qualités, le virent partir avec une vive douleur et lui conservèrent son poste pendant 2 ans, dans l'espoir qu'il viendrait le desservir de nouveau. Mais Zwingli reconnut bientôt que c'était le Seigneur qui l'avait conduit sur un champ de bataille plus favorable à l'exécution du grand dessein auquel il le destinait. Dans le silence et le calme du monastère, il trouva plus de temps pour l'étude et la méditation. Puis, la présence de pèlerins très nombreux lui fournissait des occasions continuelles de répandre au loin les vérités qui lui étaient devenues si chères et qu'il ne pouvait garder pour lui. Il ne voulait pas qu'on pût lui adresser le reproche que se faisaient à eux-mêmes les lépreux de 2 Rois, chapitre 7, verset 9, quand il disait « Ce jour est un jour de bonnes nouvelles, et nous, nous nous taisons. » Bien plus tôt, il disait « J'ai cru, et c'est pourquoi j'ai parlé. » L'abbé d'Einzendel, homme pieux et désireux d'en connaître plus long sur la vérité évangélique, fit un accueil chaleureux à son jeune collaborateur et l'encouragea dans la voie où il était entré. Lui-même ne partageait pas la croyance commune que l'hostie renfermait le vrai corps de Jésus-Christ. Comme il ne célébrait point de messe, plusieurs des visiteurs du couvent lui exprimèrent leur surprise. L'abbé leur répondit avec beaucoup de raison, « Si Jésus-Christ est véritablement dans l'hostie, je suis indigne de la regarder, plus indigne encore de l'offrir en sacrifice au Père. S'il n'est pas dans l'hostie, malheur à moi, si je propose au peuple un pain à adorer plutôt que Dieu. » On lisait sur la porte du couvent une inscription ainsi conçue. Ici, on trouve une pleine rémission de tous les péchés. À l'instigation de Zwingli, cette inscription disparut. Puis l'abbé fit enterrer toutes les reliques auxquelles on avait rendu un culte jusque-là. Il prescrivit aux religieuses qui dépendaient du monastère de lire le Nouveau Testament en langue allemande plutôt que de réciter leurs heures et permit à celles qu'ils voulaient de quitter le couvent et de se marier si elles en trouvaient l'occasion. À Inzendel, Zwingli entra en relation avec plusieurs hauts dignitaires de l'Église, entre autres avec le célèbre cardinal Matthew Schinner, l'adversaire déclaré de la politique française en Suisse. Il ne craignait pas d'insister auprès d'eux, quel que fût leur rang, sur la nécessité urgente et formelle d'une réforme radicale dans l'Église catholique, de laquelle il faut remarquer ils ne songeaient pas encore à se séparer, pas plus que ne l'avait été Luther au début. Son aversion pour les abus de tout genre s'accroissait dans ce milieu où, malgré les excellentes dispositions de l'abbé, la superstition s'étalait au grand jour et sous toutes ses formes les plus répugnantes. Sa prédication devenait toujours plus incisive. « Ne croyez pas, s'écriait-il en s'adressant à ses auditeurs, que Dieu habite dans ce soi-disant sanctuaire plutôt que dans n'importe quel autre lieu de la création. Où que soit sa demeure, il vous voit, il vous entend. Quelle puissance pourrait-il y avoir dans des œuvres dépourvues de tout profit quelconque, pèlerinage pénible, offrande, prière adressée à la Vierge et au Saint? Et vous croyez vous assurer par là la faveur de Dieu? À quoi bon entasser tant de vaines paroles? Quel profit peut-il y avoir à porter une soutane, à se faire raser la tête, à se vêtir de robes richement brodées pour célébrer le culte? Dieu regarde au cœur, et nos cœurs à tous sont totalement éloignés de lui dans notre état naturel. Le Seigneur Jésus-Christ s'est offert lui-même sur la croix une fois pour toutes. Lui est le sacrifice, la victime qui donne satisfaction durant toute l'éternité pour tous les péchés que peuvent avoir commis ceux qui mettent leur confiance en lui. On voit que dans ses discours, qui s'adressaient souvent à de véritables foules de pèlerins, il rendait ses auditeurs attentifs aux doctrines centrales du christianisme, dépouillés de toute enveloppe scolastique. Aux superstitions humaines, il opposait l'amour du Christ et la soumission à la volonté de Dieu. On admirait la forme parfaite dans laquelle la parole s'échappait de ses lèvres. Le bruit de son éloquence et de sa valeur scientifique se répandit au loin. Un de ses admirateurs l'appelait « l'éclat et l'ornement de la patrie ». Mais ce n'est pas là ce que cherchait Zwingli. Il n'avait pas d'autre but, pas d'autre désir qu'à d'annoncer la vérité à ces foules plongées dans l'erreur. La célébrité dont il jouissait lui valut bientôt un appel en qualité de prédicateur attaché à la grande église de Grossmünster à Zurich. Il accepta, non sans hésiter, à cause de la lourde responsabilité qui lui encombrait, mais en y voyant la main de Dieu, qui l'invitait à déployer les talents qu'il avait reçus sur un théâtre plus étendu qu'il n'avait pu le faire jusque-là. Le clergé zurichois avait un triste renom et Zwingli prévoyait des luttes acerbes de ce côté-là. Ce clergé, dit un historien, pourtant catholique, était nombreux et bien doté. Un nouveau zèle pour les constructions ecclésiastiques se faisait remarquer, ainsi que pour la musique religieuse. Les fêtes se célébraient devant un grand nombre de prélats et de prêtres. On aurait pu en conclure que la vie spirituelle florissait, mais ce n'était que vaine apparence. Un profond déclin avait envahi l'Église. Tout n'était que clinquant et vie extérieure. On voit que le souci des choses de Dieu, le simple désir de suivre ses ordonnances, n'existait pas. Ces prêtres n'étaient que des aveugles, conducteur d'aveugles. Le 1er janvier 1519, Zwingli monta dans la chaire de Grossmünster et informa ses auditeurs qu'il ne s'en tiendrait pas dans ses sermons aux péricopes indiqués par l'Église. Les péricopes indiqués par l'Église, c'était les textes imposés par l'Église catholique que tous les curés de toutes les paroisses devaient prêcher en même temps. Autrement dit, il leur a dit, moi je ne marche plus dans ça, je prêche la parole de Dieu dans les textes que je veux. Mais qu'il expliquerait les livres de la Bible les uns après les autres, et qu'il annoncerait la doctrine du Christ d'après les textes originaux. Cette déclaration fit une profonde impression et fut en général accueillie avec sympathie par la majorité des fidèles, d'autant plus que tout, chez le nouveau prédicateur, attirait la confiance. Sa belle prestance, la dignité de son maintien, sa voix chaude, quoique un peu faible, le choix heureux de ses expressions. Ses leçons étaient claires et faciles à saisir, pleines de sérieux et de cordialité. Ses réprimandes avaient un caractère paternel. La conscience qu'il avait de son mandat, le sentiment que le message qu'il publiait venait de Dieu, la conviction qu'il manifestait en le communiquant, tout cela donnait à ses entretiens un cachet spécial qui, au dire de ses contemporains, rappelait celui des discours des prophètes. La fermentation provoquée par ses paroles courageuses et sévères n'était pas pour l'arrêter dans sa résolution. Il trouva une adhésion croissante chez les bourgeois éclairés qui éprouvaient de vrais besoins religieux et qui, sous l'impression d'ailleurs du mouvement qui avait éclaté en Allemagne, ne réclamaient plus le lait spirituel seulement, mais une nourriture solide, comme on peut le voir dans Hébreux chapitre 5, verset 12. L'homme du peuple reconnaissait en lui un prédicateur de la vérité qu'aucune considération n'arrêtait. Des membres éminents du chapitre de Grossmünster, que la lecture de la Bible avait éloigné du système ecclésiastique romain, adhérèrent avec joie aux principes exposés par Zwingli et tournèrent résolument le dos aux fausses doctrines qu'ils avaient pratiquées jusque-là. En fait, Zwingli ne suivait pas à la lettre le programme qu'il avait tracé. Il raconte lui-même la marche qu'il suivit et que lui dicta l'enchaînement logique de l'enseignement qu'il se proposait de donner. À mon arrivée à Zurich, je commençai à expliquer l'Évangile selon Matthieu, puis les Actes des apôtres, afin de montrer comment la vérité se répandit. Je passai ensuite à la première épître de Timothée, qui contient, pour ainsi dire, toute la règle de conduite d'un chrétien digne de ce nom. Voyant que de faux docteurs proclamaient des erreurs contre la foi, j'expliquai l'épître aux Galates, puis les deux épîtres de Pierre, pour prouver aux détracteurs de Paul que le même esprit avait inspiré l'un et l'autre apôtre. Enfin, j'arrivai à l'épître aux Hébreux, qui fait connaître dans toute son étendue le bienfait du message apporté par le Seigneur dans le monde. Zwingli s'attachait avant tout à faire ressortir l'amour infini de Dieu dans le don de Jésus, son Fils unique et bien-aimé. Il invitait ses auditeurs à mettre toute leur confiance dans l'œuvre accomplie pour eux à la croix. Ses appels pressants à la repentance étaient accompagnés d'éloquentes réfutations des erreurs qui avaient cours, avec une logique impitoyable. Il les sapait à la base. Il s'élevait aussi contre les mœurs dissolu, que ne distinguait que trop la ville de Zurich, contre le luxe effréné, l'intempérance, les costumes extravagants, les injustices commises envers les pauvres et les déshérités de ce monde, l'oisiveté, le service mercenaire, la tendance qu'on avait à accepter des pensions de la part des princes étrangers. Il n'épargnait personne, dit un de ses contemporains, ni le pape, ni l'empereur, ni les seigneurs, ni même ses propres concitoyens zurichois ou confédérés. On sentait chez lui une puissance irrésistible qui venait de Dieu et sans laquelle il n'aurait jamais pu parler avec une force et une autorité pareille. Dans tout ce qu'il disait, il ramenait toujours son sujet au Seigneur tellement il avait à cœur de le glorifier. Si dans la chair, il prenait des allures de dominateur. intensément pénétré de la valeur de la haute mission qui lui incombait. Dans la rue, chez lui, c'était le plus affable des hommes, réalisant bien ce mot des Proverbes 19-22. Ce qui attire dans un homme, c'est sa bonté. Il ne craignait pas de frayer avec les corporations de commerçants et d'industriels, prenant même part aux discussions, mais toujours en vue de diriger l'attention des auditeurs du côté de ce qui devait tendre à la gloire de Dieu. Il abordait paysans et patriciens avec la même cordialité, acceptant, d'après un témoignage du temps, avec un égal plaisir, les invitations des riches et des pauvres. Il ne méprisait personne, témoignant une égale bienveillance envers chacun, chérit les malheureux, toujours serein devant les infortunes de la vie, jamais déprimé par les calamités, encourageant par tous ses discours, car son cœur reposait sur le rocher des siècles. Zwingli était un travailleur infatigable. Chez lui, il ne cessait de lire, d'écrire ou de traduire. À des heures déterminées, il recevait tous ceux qui avaient besoin de ses conseils ou de ses instructions. Il prenait chaque jour quelques instants pour les consacrer à ses amis personnels. Mais souvent, il passait une partie de ses nuits à sa correspondance. Toute l'Allemagne et même une partie de l'Europe retentissaient encore du bruit causé par la noble défense de Luther devant la diète de Worms. Les papistes suisses flétrissaient du nom de luthériens quiconque s'écartait en un seul point des croyances et des pratiques romaines. Zwingli repoussait avec énergie cette dénomination et il avait raison. Le réveil en Suisse n'était pas du tout un produit de celui qui avait lieu en Saxe ou en Allemagne. Lorsqu'il apprit à connaître les vérités contenues dans la parole de Dieu, il ne savait rien de Luther, ignorait même son nom et ne se doutait nullement que, au-delà du Rhin, l'Esprit de Dieu travaillait aussi avec la même puissance. De même qu'en Allemagne, en Suisse aussi, les excès de la papauté aidèrent à la cause de l'Évangile. Sous la direction du dominicain Samson, le trafic des indulgences y pénétra et ne tarda pas à drainer le pays à un tel point que les gouvernements s'en alarmèrent. Les gens du peuple, surtout, gaspillèrent leurs maigres ressources pour acheter de ces odieux documents. Il ne leur restait rien pour s'acquitter de leurs impôts. Berne ferma ses portes à Samson à cause de ruses et de mensonges. Il réussit à se les faire ouvrir et réalisa dans cette ville un gros bénéfice. Il se rendit ensuite à Baden, puis s'avança dans la direction de Zurich par des voies détournées à travers les campagnes d'Argovie. Zwingli avait attendu ce moment pour dénoncer les pratiques éhontées du dominicain. Christ est tout, il est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. Il est tout, il peut tout. Nul autre que lui n'a le pouvoir de remettre les péchés. Il est notre justice, notre sainteté. Par lui seul, nous pouvons nous tenir sans conscience de péché devant la présence de Dieu. Éclairés par le réformateur, les magistrats de Zurich interdirent à Samson l'entrée de leur ville, où la diète helvétique se trouvait réunie. Comme à Berne, Samson cherchait à pénétrer au moyen de subterfuges, se prétendant investi du pape d'une mission spéciale auprès des députés des cantons. C'était faux. La fourberie découverte, le marchand reçut l'ordre de se retirer au plus vite. Complètement discrédité, même auprès de ses co-religionnaires, il s'empressa de rentrer en Italie. La première année du ministère de Zwingli à Zurich fut marquée pour lui et pour la ville par une épreuve terrible. Accablé de fatigue, il s'était rendu au bain de Pfaffer pour y prendre quelques repos, très relatifs du reste, car il saisissait toutes les occasions pour prêcher l'Évangile aux malades qui l'entouraient. Soudain, la nouvelle arriva que la peste avait éclaté à Zurich. Sans un instant d'hésitation, Zwingli y retourna en hâte afin de se consacrer aux besoins des malades. Ses amis l'encourageaient à se ménager, mais en vain. Atteint lui-même par le fléau, sa vie fut en grand danger. La nouvelle de sa mort se répandit à Bâle. Le Seigneur intervint en sa faveur et, après de longues semaines d'angoisse, son entourage reprit espoir de le voir se rétablir. La convalescence dura des mois entiers, malgré la robuste constitution du malade. Il mit à profit cette période d'inaction forcée pour méditer sur la parole de Dieu, et il acquit ainsi des forces spirituelles en vue des luttes qui l'attendaient. Il composa aussi plusieurs cantiques où se reflète son état d'âme. Voici trois strophes de l'un de ces cantiques. « Ma porte s'ouvre et c'est la mort. Ta main me couvre, mon Dieu, mon fort. Ô Jésus, lève ton bras percé, brise le glaive qui m'a blessé. Mais si mon âme, en son midi, ta voix réclame, Christ, me voici. » Alors, j'ai mis trois applications, cette très brève étude de Zwingli. La première, louons le Seigneur pour son amour des âmes. L'Évangile faisait son œuvre en Allemagne et il le faisait aussi en Suisse allemande de façon parallèle et indépendante. La réforme allait se répandre dans toute l'Europe et bien au-delà. Deuxième application, rendons grâce au Seigneur d'avoir suscité des hommes forts, courageux et fidèles pour faire avancer son royaume et dissiper les épaisses ténèbres qui régnaient en Suisse à cette époque. Troisième application, remarquons la centralité de la parole de Dieu dans le développement des caractères des leaders de la réforme et de la transformation des vies qu'elle apportait pour la plus grande gloire de Dieu. Louons le Seigneur pour sa grâce, sa bonté et sa miséricorde. Amen.
Amen.